Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, si la science est importante dans notre société, c'est en grande partie pour toutes les applications technologiques qui en découlent. Qu'il s'agisse des matériaux de construction, du textile, des énergies, des cosmétiques ou tout simplement des ordinateurs, des téléphones, tous ces exemples sont autant d'applications technologiques issues de recherches que les industriels ont décidé de développer à grande échelle. Depuis 2000, l'Académie des technologies a ouvert ses portes en France, créée à l'initiative de l'Académie des sciences et du ministère de la Recherche. Elle fête aujourd'hui, en 2011, ses 10 ans d'existence avec pas moins de 260 membres issus d'horizons très différents. Pour faire le point sur ses 10 ans d'existence et les projets qu'elle compte concrétiser, le président de l'Académie des technologies est avec nous, Bruno Revelin-Falcoz, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au studio de Canal Académie. Vous êtes le président de cette académie depuis le 1er janvier 2011. Vous avez effectué votre carrière dans le domaine de l'industrie aéronautique chez Dassault Aviation avant d'en devenir le vice-président directeur général pendant 6 ans. Alors j'ai envie de dire, Bruno Revelin-Falcoz, ça le temps pour les technologies aujourd'hui, si vous me permettez, puisque l'expérimentation des plantes génétiquement modifiées a été gelée en France, le débat revient régulièrement sur les antennes de téléphonie mobile, la chimie est perçue comme une pollution à part entière et l'industrie pharmaceutique a perdu beaucoup de crédit avec cette liste de 77 médicaments sous surveillance, liste émise par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, autrement dit l'AFSAPS. Quel est votre regard sur tous ces éléments a priori disparates, mais qui ont pour point commun les applications technologiques des connaissances scientifiques ?
Je voudrais vous dire tout d'abord que, à l'inverse de ce que vous essayez de me dire sur sale temps pour les technologies, c'est au contraire un grand temps pour les technologies qui s'annonce. Pourquoi ? Parce qu'il faut parler du bon usage de ces technologies. Aujourd'hui, les technologies qui sont structurantes pour la vie quotidienne, pour la vie personnelle, pour la vie en communauté, pour les transports, pour les déplacements, ces technologies apportent un progrès tout à fait considérable. Mais dès que l'on parle de progrès, il faut effectivement bien préciser. Qu'est-ce que c'est qu'un progrès ? Un progrès, c'est un bilan entre des bénéfices et des risques. Évidemment, on dit qu'il y a progrès lorsque les bénéfices l'emportent très largement sur les risques. Et il est important, par les temps que nous vivons, que soient bien affichés les bénéfices et qu'on ne parle pas seulement des risques. Faute de quoi, nous aurions un avenir qui est bien bouché. Donc les technologies, à l'inverse, vont avoir un grand développement qui va être pour le bien de l'humanité, dans toutes ses composantes. Et c'est sur ces technologies-là, justement, que l'Académie des technologies entend faire connaître tous les mérites, tout l'intérêt de la réflexion, mais également des actions autour de ces technologies.
Nous allons en reparler dans quelques instants. Est mis en ligne sur le site de l'Académie des technologies justement un plaidoyer qui reprend ce que vous venez de dire. C'est votre plaidoyer, hein, publié le 1er février 2011. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, pour rester sur cette idée de bénéfices et de risques, est-ce que vous pensez que notre œil reste aujourd'hui focalisé sur des risques qui ne valent rien au regard des bénéfices ?
Lorsqu'il y a doute, et je vais évoquer tout de suite le principe de précaution, lorsqu'il y a doute, il est essentiel de s'interroger, mais surtout de lancer les actions qui permettront de lever ces doutes. Le principe de précaution n'est pas un principe d'immobilisme, bien au contraire, c'est un principe d'action. S'il y a doute, on réfléchit et surtout on lance les travaux qui permettront dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, de comprendre, de mieux connaître. Il ne faut pas arrêter la marche de la recherche, la marche de l'expérimentation, car sinon c'est l'humanité tout entière qui ne saurait plus où elle va demain. Prenons un exemple, vous avez évoqué les OGM. Quel débat autour des OGM ? Mais quel débat hexagonal ? Si vous pensez aujourd'hui que lorsqu'il faudra nourrir 9 milliards de terriens, c'est-à-dire 3 milliards de plus qu'aujourd'hui, il est bien difficile d'envisager qu'on ne puisse pas utiliser les OGM. Aujourd'hui déjà, 12% des terres arables dans le monde entier sont en culture OGM. Et vu de l'extérieur, vu d'autres continents, le débat français est un débat qui apparaît curieux. On ne comprend pas à l'extérieur pourquoi il y a un tel débat chez nous. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce débat chez nous ? C'est tout simplement parce que le phare est beaucoup trop mis sur l'inconvénient par rapport à l'avantage. Et quand on finit à ne parler que des inconvénients, là, on se trompe dans la démarche. Je pourrais évoquer également les nanotechnologies, puisque c'est un sujet d'actualité sur lequel vous m'invitez à intervenir. Les nanotechnologies sont un domaine formidablement prometteur. Mais il ne faut pas commencer par regarder uniquement les inconvénients. Bien évidemment qu'il faut traiter l'ensemble du sujet. Nous sommes invités, dans des débats de technologie de nano, par exemple, à regarder toutes les facettes, à bien identifier tous les avantages et bien entendu, ne pas oublier les éventuels inconvénients qu'il faudra traiter. Mais le progrès, l'avancée pour le futur, passe par cette démarche responsable et c'est cette démarche que l'Académie des technologies veut continuer à pousser, à animer, à faire en sorte qu'elle devienne vraiment la démarche publique.
Alors, dernière question sur ce thème, et puis après on va avancer sur les spécificités de cette Académie des technologies. Est-ce que vous pensez que le principe de précaution est incompatible avec l'Académie des technologies ?
Le principe de précaution n'est pas du tout incompatible. Tout d'abord, il est inscrit dans la Constitution. Mais ce que nous avons dit récemment dans une communication à l'Académie des technologies sur ce sujet, c'est que d'abord il faut respecter son champ d'application tel qu'il a été prévu dans la Constitution, qui est lié au domaine de l'environnement et de la santé, et pas utiliser ce principe de précaution à tout va, dans n'importe quel cas de figure. Et deuxièmement, rappeler, et nous le ferons, que le bon usage de ce principe de précaution, ça consiste effectivement à faire une analyse approfondie des problèmes et surtout, j'insiste beaucoup là-dessus, lancer les travaux, les expérimentations. Le principe de précaution est un principe d'action. Ça, c'est essentiel. Et nous continuerons à l'Académie des technologies à soutenir ce point de vue.
Avançons, si vous le voulez bien, sur, je le disais à l'instant, ces spécificités de cette Académie des technologies. On y retrouve des personnes d'origine très diverses hein, sur ces 260 membres, des ingénieurs, des architectes, des économistes, des industriels, des chercheurs, et avec des commissions très variées sur les biotechnologies, vous en parliez, la démographie, l'énergie, les changements climatiques, l'environnement, les nouvelles techniques d'information et de communication, la technologie et la santé, ou encore l'urbanisme et l'habitat. Autant de points qui contribuent au bien-être des hommes. Quelle est la thématique sur laquelle vous vous penchez actuellement ? Quel est le problème qui, aujourd'hui, intéresse particulièrement l'Académie des technologies ? Est-ce que c'est l'accès à l'eau, les énergies, le changement climatique ?
Vous l'avez dit, nous sommes faits d'une douzaine de commissions qui couvrent tous les champs d'activité dans lesquels il y a des technologies. Alors, il n'y a pas un sujet particulièrement plus en avance que d'autres actuellement, puisque nous essayons de les mener de front. Pourquoi ? Parce que effectivement, on parle beaucoup d'énergie pour demain, d'énergie renouvelable. Donc on pourrait penser que la commission qui travaille sur ce sujet, qui est d'ailleurs la plus importante de notre Académie des technologies, est en pointe. Cela est vrai, mais pour autant, nous ne diminuons pas les activités autour, par exemple, des applications des technologies de l'information et de la communication. La révolution numérique, qui est un formidable accélérateur de progrès à la fois technique, mais de progrès économique, de progrès de compétitivité. Cette révolution numérique est un élément essentiel qui touche tous les secteurs d'activité. Et l'on va retrouver l'application de cette révolution numérique, que ce soit dans le domaine de l'habitat, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine des biotechnologies également, où nous faisons beaucoup de simulations dans le domaine, par exemple, de la santé, avec des équipes spécialisées, de façon à voir quels sont les apports. Nous continuons et nous tenons beaucoup à continuer à pousser de front plusieurs sujets d'actualité, bien évidemment, mais j'allais dire en termes de technologie, tous les sujets sont presque d'actualité, car les technologies sont partout. Les technologies sont dans la vie personnelle, sont dans la vie quotidienne, sont dans les transports, les relations, sont dans la santé. Tout ce que nous faisons, à titre personnel ou à titre collectif. C'est pour ça que cet ensemble est à mener de front, et c'est ce que nous faisons dans notre académie pour pousser des travaux, pour pousser des actions, pour pousser des expérimentations, et pour renforcer le dialogue, d'une part avec l'opinion publique, mais également avec les décideurs publics. Et nous avons, par exemple, avec l'Office parlementaire d'études des choix scientifiques et techniques, une relation étroite. Un tiers des membres du conseil scientifique de l'OPEXT sont membres de l'Académie des technologies, par exemple.
Bruno Revlin-Falcouz, quels sont les projets en cours actuellement à l'Académie des technologies ?
L'Académie des technologies a la vocation non seulement de réfléchir, mais aussi de lancer des actions. Et nous sommes en train de lancer 3 expérimentations. La première est dans le domaine de la médecine à domicile. Nous avons d'ailleurs inventé un terme qui s'appelle la domomédecine. Il s'agit là de regarder comment améliorer le système médical des personnes à domicile loin des centres, des villes et des agglomérations. Et l'Académie des technologies a fait lancer en région Champagne-Ardenne une expérimentation qui va porter sur près de 10 000 patients qui seront équipés à domicile de façon à avoir une surveillance à distance, et on regardera l'intérêt thérapeutique, mais également l'intérêt économique qu'il y a pour ces personnes éloignées à domicile. Nous avons un deuxième domaine d'expérimentation dans le monde des transports et nous venons de faire signer une charte pour le transport multimodal. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'utiliser au mieux toutes les possibilités de transport pour les passagers, par exemple, d'abord, ensuite ce sera pour le fret, entre le taxi, le RER, le métro, le TGV, le train régional, etc. Il n'existe pas aujourd'hui de système qui permette d'optimiser les trajets et également pas de système dans lequel il y ait une billetterie unique. Donc nous avons fait créer une plateforme, ce qu'on appelle une charte multimodale intelligente, qui est maintenant signée par plus d'une vingtaine de fédérations, d'organismes, d'usagers ou de transporteurs. Et enfin, troisième élément à titre d'exemple, nous avons créé ce que nous appelons les ateliers villes post-carbone. L'Académie des technologies est allée dans les grandes villes et va continuer pour discuter, dialoguer avec les municipalités pour illustrer toutes les possibilités des technologies nouvelles en termes d'urbanisation, de meilleure gestion de la ville, des transports, de gestion des énergies, récupération des chaleurs, etc. Et ceci est une action en province que nous continuerons. Donc l'Académie a bien un rôle de lanceur d'expérimentation, de catalyseur d'innovation.
Alors, rappelons-le, l'Académie des technologies en 2011 fête ses 10 ans. Est-ce que, justement, on pourrait penser que la France s'est rendue compte tardivement des intérêts de mêler à la fois les scientifiques et les industriels ensemble au sein de cette Académie des technologies ? Est-ce que c'est une prise de conscience tardive ?
Bon, je crois qu'on peut dire que, effectivement, la France a réalisé, il y a une dizaine d'années, qu'elle était peut-être le seul pays européen qui n'avait pas une Académie des technologies à côté de son Académie des sciences. Donc la prise de conscience a été faite il y a 10 ans et nous nous sommes mis au travail très vite puisque cette Académie des technologies, née il y a 10 ans, effectivement, nous sommes heureux de fêter notre 10e anniversaire. C'est toujours sympathique et puis nous sommes contents d'être jeunes parce que quand on est jeune, on a l'avenir devant soi. Je veux dire par là que nos procédures, notre dynamique, notre réactivité, eh bien, est nouvelle, et par conséquent, nous n'avons pas d'a priori pour traiter tel ou tel sujet. Nos membres, vous avez rappelé qu'ils sont très variés, effectivement, puisque nous tenons beaucoup à ce que tous les thèmes abordés le soient à la fois sur l'aspect technique, technologique, sociétal, environnemental, économique. Eh bien, tous ces thèmes-là peuvent être abordés sans tabou, dans une totale indépendance, et nous avons une grande liberté de penser au sein de l'Académie des technologies.
Vous avez parlé il y a quelques instants de l'Académie des sciences. Quels sont vos liens avec cette Académie ?
Nos liens avec l'Académie des sciences sont forts pour 2 raisons. La première, c'est que 60 de nos membres sont également membres de l'Académie des sciences. Et deuxièmement, il est clair pour tout le monde aujourd'hui que sciences et technologies sont tout à fait complémentaires. Si je devais donner une définition un peu simplifiée, pardonnez-moi, mais je dirais que la science découvre et la technologie invente. Autrement dit, les technologies sont beaucoup dans l'innovation. Et qu'est-ce que c'est que l'innovation ? L'innovation, c'est en quelque sorte l'industrialisation de l'invention. Et elles sont complémentaires pourquoi ? Elles sont complémentaires car si la science permet de faire des applications technologiques, à son tour, la technologie vient au service de la science pour l'aider à continuer. Il y a beaucoup d'exemples de cette nature, ce sont des progrès d'outils technologiques, par exemple d'examens dans le domaine de la santé, l'IRM qui permet d'apporter aux chercheurs scientifiques des connaissances pour poursuivre leurs travaux, qui ne seraient possibles qu'effectivement parce qu'il y a ces résultats d'expérimentation à l'aide de technologies. De la même façon que les grands scientifiques travaillent de plus en plus dans des calculs important parce que la technologie des calculateurs, des grands ordinateurs, leur permet d'avancer. Autrement dit, la technologie n'est pas à l'aval de la science, Mais technologie et science cohabitent et il y a des allers-retours entre les deux. Et c'est ça qui est essentiel. Et c'est pour ça que nous tenons beaucoup à cette relation science-technologie, chacune ayant sa place.
Restons quelques instants sur ces membres qui composent votre Académie des technologies. Donc vous le disiez à l'instant, 60 membres qui appartiennent conjointement et à l'Académie des technologies et à l'Académie des sciences. Comment sélectionnez-vous vos futurs académiciens des technologies, puisque comme on l'a vu il y a un peu de temps, ils appartiennent à des milieux très différents?
Alors nous voulons absolument conserver la variété dans les membres de l'Académie des technologies. Vous avez cité certains membres communs avec l'Académie des sciences, mais je pourrais dire que nous avons également des membres communs avec l'Académie de médecine, avec l'Académie d'agriculture de France, avec l'Académie de l'air et de l'espace, avec l'Académie de pharmacie. Les technologies étant au cœur de toutes les activités, je crois que maintenant cela est bien compris, il est tout à fait normal que l'Académie des technologies soit au cœur d'une fédération d'académies, et ça, nous y tenons beaucoup. Alors, concernant maintenant ce que vous appelez la sélection, eh bien, ce sont nos membres qui, examinant régulièrement chaque année les domaines dans lesquels des compétences nouvelles peuvent rejoindre nos rangs, ce sont ces membres qui font des propositions de candidature, qui apportent au comité du recrutement de l'Académie des noms de candidats, qui ne savent pas d'ailleurs qu'ils sont sollicités et qui le sauront le jour où, effectivement, après un processus d'élection, ils seront effectivement retenus. Et c'est ce jour-là que nous venons leur dire, écoutez, on a envie de vous élire, on a envie de vous avoir, est-ce que vous confirmez que vous acceptez? Donc c'est une procédure très ouverte, très large, et nous tenons absolument à maintenir cette grande variété qui, j'ai la faiblesse de croire, fait la richesse et la valeur ajoutée de notre Académie des technologies.
Alors, autre spécificité de cette Académie, on reproche souvent aux académies d'être parisiennes. Je crois que l'Académie des technologies est présente dans beaucoup de régions françaises.
L'Académie des technologies a des membres qui viennent de toutes les régions de France, non seulement de France, mais également de l'étranger. Nous avons un représentant, un membre grec, nous avons un membre espagnol, nous avons un membre marocain, nous avons un membre italien, nous avons un membre belge, nous avons un membre canadien. Je m'arrête là. Mais ce que je voudrais souligner, c'est une particularité de l'Académie des technologies en Europe. 21 pays européens ont regroupé leur Académie des technologies au sein de ce que l'on appelle Eurocase. Et il se trouve que depuis le début, depuis 10 ans, c'est l'Académie des technologies qui assure le secrétariat général de cette fédération de 21 Académies des technologies européennes. Autrement dit, nous avons le rôle central fédérateur. Ce qui fait que lorsque nous traitons un problème technologique, j'ai tendance à dire aucun problème n'est hexagonal. Ils sont tous au moins européens et probablement mondiaux. Eh bien, nous pouvons traiter avec 21 pays européens leurs académies des technologies ou d'ingénierie, ce qui rassemble à peu près 6000 personnes, 6000, j'allais dire, experts, chacun dans leur domaine. Et vous imaginez que dès lors, le travail que mène notre Académie des technologies a un pourtour extrêmement large, a des entrées dans l'analyse qui sont multiples et donc qui nous donne un point de vue qui, je crois, est intéressant, car nous traitons les problèmes avec un grand environnement européen.
Alors, on peut dire que finalement, les technologies sont en bonne santé, que l'Académie des technologies est en bonne santé, 260 membres en 10 ans, vous êtes plutôt prolifique. Quelles seraient maintenant les grandes choses à entreprendre de la part de l'Académie des technologies?
Vous dites que notre Académie des technologies est en bonne santé, je crois que c'est le cas, mais vous savez, comme toute personne en bonne santé, il faut l'entretenir. Il faut le développer. La caractéristique principale pour l'avenir, c'est la croissance. Cette jeune académie n'a pas encore fait son plein. Nous pouvons, mais nous ne nous précipitons pas non plus, augmenter sensiblement encore, puisque le décret qui crée cette académie depuis 2007 prévoit que nous ayons 250 titulaires et nous n'en sommes qu'à 170. Alors, pour faire le compte, puisqu'aujourd'hui nous sommes 268, il faut savoir qu'il y a à peu près 160 titulaires et une centaine d'académiciens émérites. Donc nous avons une marge de croissance très importante. Mais ça n'est pas la course à la croissance pour la croissance. Ce qui nous intéresse, c'est de nous mettre en posture de traiter tous les problèmes technologiques d'aujourd'hui et surtout de demain. Et l'avenir pour nous, dans les mois et les années qui viennent, c'est de bien gérer la croissance, non pas des effectifs, mais la croissance du traitement des sujets. il y a trop de besoins dans notre pays et même en Europe d'avoir un avis indépendant sur l'évolution des technologies. Éviter que l'on dise n'importe quoi dans certains cas. En tant que compagnie indépendante, donner un avis circonstancié, posé, réfléchi sur les sujets du moment est essentiel. Notre monde a de plus en plus besoin d'avis sérieux, d'avis d'experts. Et c'est là où notre académie trouve son plein rôle. Et je constate, depuis 2-3 ans d'ailleurs, que nous sommes de plus en plus consultés pour donner un avis. On nous demande ce que nous pensons sur un sujet où il y a un débat. Nous sommes par exemple intervenus sur l'impact des antennes sur le comportement, sur la santé. Et nous avons pu, avec force, dire que rien dans les mesures qui ont été faites ne permet de dire qu'il y ait un impact quelconque sur la santé et qu'il est inexact que certains papiers aient été écrits en disant qu'il y avait effectivement un problème. Donc nous faisons là œuvre de sagesse. Ce que je viens de vous dire pour les antennes relais est bien sûr généralisable à tous les problèmes du moment. On se retrouvera dans les nanos, dans les OGM ou dans bien d'autres développements, dans les énergies de demain. Pour dire exactement, les énergies, celles qui sont intéressantes, celles qui sont polluantes, celles qui sont économiques ou qui ne le sont pas, on entend énormément de choses aujourd'hui. Et dans une généralisation hâtive, on peut être amené à dire que l'éolien, c'est la solution. L'éolien est peut-être une solution pour des pays du Nord qui n'ont aucune source d'énergie électrique provenant du nucléaire. Mais dans le cas de la France, qui a 80% de son électricité qui vient du nucléaire, il n'est pas évident du tout que l'éolien puisse avoir la même place qu'il peut avoir dans un autre pays. Il nous faut donc avoir des avis circonstanciés sur l'importance relative et l'intérêt relatif qu'il y a et ne pas céder à une mode générale, fût-elle européenne, qui n'a pas de sens quand elle est appliquée pays par pays.
Alors, je reprends votre propos. Notre monde a de plus en plus besoin d'avis sérieux. Vous vous adressez en priorité aux décideurs, au monde politique, aux industriels. Est-ce qu'à terme, vous souhaitez aussi développer votre démarche d'information auprès d'un plus large public? Et ça sera ma dernière question.
Quand on est une académie jeune comme la nôtre, qui a du savoir-faire, je crois, j'ai la faiblesse de le penser au nom de nos membres, il est important que le faire savoir soit à la même hauteur. Et c'est la tâche à laquelle nous nous attelons maintenant. Nous avons, dans le débat public, à informer les décideurs politiques, à leur donner des informations consolidées. Nous avons à informer l'opinion publique. Donc nous organisons des débats publics. Nous en avons fait un sur le principe de précaution, nous en avons fait un sur les OGM justement, mais nous allons en faire d'autres. Donc nous allons développer ce faire savoir, car il est utile. Et au travers de ce faire savoir, il y a un élément important. C'est que nous devons continuer à mettre les experts à leur bonne place. Quelque chose me frappe énormément. Pourquoi, dans l'opinion publique, la notion d'expert est-elle quelquefois perçue comme étant négative? Nous avons besoin d'experts. Nous avons besoin de valoriser les experts. Nous avons besoin de mettre en discussion les experts pour que d'un débat d'expertise sorte une vérité qui a peut-être besoin de s'appuyer sur des travaux complémentaires pour mieux savoir 6 mois, 1 an après. Un pays comme la France a un devoir de valoriser ses experts. Nous en avons beaucoup, ils sont de grande qualité et il ne faut pas laisser dans l'opinion publique percer cette idée qu'un expert est quelqu'un d'a priori inquiétant, voire critiquable par principe. Il y a là un devoir civique à faire vis-à-vis de cet expert dans le débat public et l'Académie des technologies entend bien apporter des éléments pour soutenir ce rôle majeur.
Merci Bruno Revelin-Falcoz. Je rappelle à nos auditeurs que l'on peut retrouver sur le site de l'Académie des technologies les conférences et les publications relatives aux académiciens et aux conférences que vous organisez. Merci et puis on souhaite bonne route et bon développement à l'Académie des technologies. Merci à vous.